Bonjour, ce matin, bonjour Lavé à un grand sens, bonjour Christian.
Bonjour Natacha.
Alors, nous avons pléthore d'invités, et dans ce bonjour Lavé, on va parler des papillons blancs, et en même temps, c'est un ensemble de vie. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette association, hein, pour parler de tout ce que vous y faites et faire quand même du bien à ceux qui vous entourent et ceux qui y sont dedans. Alors, je vais vous demander de vous présenter chacun avec vos fonctions de chacun, s'il vous plaît.
Eh bien, Michaël Jau, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Je suis le directeur général de l'association des Papillons Blancs.
Bonjour à tous, Hélène Audi Lefebvre, je suis chef de service du SAVS, qui veut dire Service d'accompagnement à la vie sociale des Papillons Blancs.
Bonjour, je m'appelle Sophie Théiol, je travaille au Papillon Blanc, ESAT de Brousse, et suivi par le SAVS.
Bonjour, je m'appelle Régis Monanto, je fais partie du service SAVS et actuellement en retraite.
Alors, on ne va pas lui demander si ça se passe bien.
Ah, très bien.
Très très bien. Alors, vous êtes venu nous parler un petit peu de ce qui s'y passe. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ?
Tout à fait. Alors, les Papillons Blancs, c'est une association parentale, c'est-à-dire qu'elle a été créée dans les années 60, après-guerre, par des parents qui avaient des enfants en situation de handicap sur le Bergeracois. Et en fait, les Papillons Blancs, ça a commencé par une classe pour faire cours à l'école pour des enfants en situation de handicap, des parents qui étaient donc les administrateurs.
En quelle année ?
Dans les années 60, c'est-à-dire en 67 exactement, d'accord, papier, mais avant, dans les années 65. Mmh. Puis les Papillons Blancs, ben, ça a grandi. Les enfants sont devenus grands. Vous savez que le principe, quand on est un enfant en situation de handicap, c'est de pouvoir avoir accès à la scolarité, aux apprentissages, l'école républicaine. Donc c'est plutôt l'inclusion par la scolarité, même si les modèles sont en train de changer, mais on y reviendra au cours de l'émission. Et quand on est adulte, ben, l'inclusion se fait par le travail. Donc les enfants qui ont grandi ensuite devaient travailler. On appelait ça des CAT, des centres d'aide par le travail. Et maintenant, Sophie y travaille et puis Régis y a travaillé. Ce sont des ESAT, des établissements spécialisés d'aide par le travail, de l'accompagnement maintenant par le travail, puisqu'on n'aide plus, on accompagne, ce qui est aussi un changement de paradigme dans la société, et c'est tant mieux. Et donc cette association, elle a grandi pour aujourd'hui être plus d'une vingtaine d'établissements et de services, 580 salariés et 300 travailleurs en situation de handicap qui sont dans nos ESAT, comme je l'expliquais tout à l'heure. Dans les différents services et établissements, on accompagne plus de 1000 personnes sur l'ensemble du Bergeracois, l'ensemble du sud d'Ordogne, même avec des services ouverts et des services institutionnels. Quand on parle de services ouverts, Hélène y reviendra tout à l'heure, mais ce sont des services dits ambulatoires qui interviennent dans les lieux de vie de droit commun, puisqu'aujourd'hui, il est question dans le handicap de ne plus tout faire à l'intérieur d'un établissement, mais de bien aller dans la cité, au sens noble de la cité, pour permettre l'inclusion et porter un regard différent sur le handicap. Et j'espère que vos auditrices et vos auditeurs se rendront compte qu'on a à donner la parole, et notamment à travers des actes citoyens, puisque ce sera l'émission de ce matin, à nos personnes accompagnées. C'est très important.
Alors, ça c'est pour la présentation de votre association. Maintenant, je voudrais me tourner vers vous, madame, présenter.
Oui, tout à fait. Alors, le service d'accompagnement à la vie sociale des Papillons Blancs est un service qui nous permet d'accompagner des personnes en situation de handicap vers plus d'autonomie, plus d'inclusion et plus d'autodétermination. Donc, ce n'est pas l'inclusion est vraiment au centre de notre travail. C'est aussi donc un service qui accompagne tous les domaines de la vie quotidienne, c'est-à-dire la vie sociale, le logement, l'alimentation, la santé, les relations, l'occupation des temps libres. Mais c'est aussi un service qui accompagne pour l'accès aux droits et pour la participation à la vie citoyenne.
D'accord. Donc, vous faites de l'administratif, forcément.
Alors, un peu d'administratif, mais pas que de l'administratif, puisqu'on fait beaucoup d'accompagnement physique auprès des personnes.
On en parlera tout à l'heure, vous avez des ateliers, on en parlera.
Et oui, puis, tout à fait.
Tout à fait. On va laisser la parole maintenant à Sophie.
Alors, moi, je suis Sophie Théiol. Je suis arrivée au Papillon Blanc en décembre 2005, où j'étais en foyer de la Brunetière pendant 18 ans. Je travaille à l'ESAT de Brousse-Saint-Christophe, où j'ai fait beaucoup d'ateliers. Donc la sous-traitance, l'atelier prestation, le service généraux, la papeterie, et voilà. C'est déjà beaucoup.
Ça fait pas mal, oui.
Et moi, je suis vraiment bien au Papillon Blanc. J'apprends beaucoup de choses. Et depuis octobre 2023, ben, j'ai mon appartement avec le suivi du SAVS, ma chef de service Hélène Audi et ma référente Sophie Puré. Alors, l'accompagnement du service SAVS, c'est m'accompagner dans mon logement où tous les 15 jours, j'ai une rencontre avec ma référente Sophie où on travaille les points, c'est-à-dire à travailler. Parce qu'on a des points à travailler et des points où on y arrive mieux. Moi, aux côtés de mon logement, ménage, courses, budget, déplacement, j'y arrive très bien. Par contre, c'est gérer mes angoisses et mon stress, parce que je suis quelqu'un de très stressé et angoissé. Et j'ai besoin d'être rassurée. Et grâce à ce service du SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, ça me rassure. Ça me rassure. J'apprends beaucoup de choses. On fait beaucoup d'activités. La citoyenneté, l'atelier cuisine, l'atelier expression, l'atelier groupe parole sexuelle, etc., etc. Et moi, j'adore ça. J'adore ça parce que ça apprend beaucoup et c'est très enrichissant. Voilà. Et au travail, ça me plaît aussi.
Bien. On verra tout à l'heure les activités, oui.
Alors, voyez, quand on est directeur général et qu'on entend une personne qu'on accompagne au quotidien et depuis longtemps, vous l'avez bien compris, depuis longtemps, témoigner de la diversité d'accompagnement au pluriel dont elle bénéficie. Sophie, ça fait plaisir parce que ça veut dire aussi que tous nos professionnels, hein, je disais 580 professionnels, on a des médecins, des éducateurs, des aides-soignants, des personnes des psychologues, mais aussi je pense à toutes les petites mains. Moi, le service administratif, vous le disiez, il faut faire tourner nos établissements, mais je pense aussi aux personnes qui font le ménage pour que les locaux Papillon Blanc, qui sont des beaux locaux, on a de jolis patrimoines, ou les hommes d'entretien qui entretiennent, on a une propriété de plus de 100 hectares, par exemple, à côté de Mussidan, à Belle-Aymas. C'est vrai qu'on pourrait rentrer dans le détail, mais ce serait trop long de tout ce que font nos professionnels au quotidien. Néanmoins, ce que vient de dire Sophie, ça veut dire quelque chose d'important qui a toujours été la primauté du souhait des parents, c'est-à-dire permettre dans tous les actes de la vie quotidienne une promotion sociale et un accompagnement à l'autodétermination. L'autodétermination, enfin, moi j'ai adoré un jour en séminaire ce résumé d'une association qui s'appelle Nous Aussi, qui dit en gros, pour savoir ce qu'est l'autodétermination, si vos auditrices et vos auditeurs se posent la question, s'autodéterminer, ça veut dire rien pour moi, sans moi. Peut-être que trop longtemps dans notre société on a fait à la place, c'est pour ça qu'on parlait, je disais tout à l'heure, on a changé le paradigme, on aidait, on prenait en charge, et maintenant on prend pas en charge, on accompagne et on laisse, comme l'a très bien dit Sophie, les personnes être actrices de leur vie. Et c'est ça qui est important, et c'est ça aussi qui nous amène à de l'humilité dans l'accompagnement, mais Hélène le témoignera. C'est un management au quotidien des professionnels qui ont cette vraie conviction chevillée au corps. Et puis, vous l'avez vu, hein, aujourd'hui, on accompagne aussi des personnes qui sont à la retraite, comme Régis. Ce qui, quand je vous disais, en 1967, on a créé une école, on ne parlait pas de personnes en situation de handicap qui étaient à l'âge de la retraite. Et aujourd'hui, on accompagne aussi des personnes à la retraite et qui en profitent bien, parce que je sais que Régis, il profite bien de sa retraite. Et ça, c'est une très bonne chose. Et qui peuvent, bah, du coup, donner de leur temps aussi pour transmettre. On y viendra tout à l'heure sur l'atelier citoyenneté, mais ce à quoi a participé Régis, c'est vraiment donner de son temps pour transmettre des informations et donner à faire connaître un certain nombre de choses.
En fait, vous rendez de l'autonomie. Donc, si vous rendez de l'autonomie aux gens qui sont là, vous leur donnez une certaine fierté et une confiance en eux. Et c'est ça, bien souvent, qui est important.
Bah, c'est sûrement Régis et Sophie qui en parleront le mieux, mais Hélène, c'est vrai, au travail, au quotidien avec les professionnels, c'est un peu le leitmotiv, c'est-à-dire permettre à des personnes qui peuvent se surprendre aussi dans tout ce qu'elles sont capables de faire parce qu'elles ont souvent... comme dit Sophie, des angoisses ou du stress,
l'appréhension,
ou même aussi un discours sociétal, hein. C'est-à-dire que longtemps autour du handicap, il y a eu un discours ou un regard de la société qui était réducteur sans doute. Et donc moi je me réjouis qu'aujourd'hui on ait des services ouverts comme le SAVS qui permettent à chacun d'exister dans les actes de la vie citoyenne ou quotidienne. Et ça c'est très 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 important.
Moi je dirais d'y avoir sa place.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Ça se résume. Sophie, c'est un bon résumé, je pense.
Oui. Oui. Mais c'est vrai, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous tous. Parce que moi, vous voyez, par exemple, j'ai 45 ans. Et quand je suis arrivée au Papillon Blanc, pour moi, être une personne handicapée, mais j'ai dit, mais oh là là, une personne handicapée, c'était très dur pour moi de le comprendre, de l'accepter. Et parce que je marche, parce que j'écris, parce que je fais des choses, parce que voilà. Après, il y a plusieurs sortes d'handicap. Et là, actuellement, aujourd'hui, on est en 2026. Et c'est vrai qu'être à Lesâtre, être au foyer de la Brunetière, et là, maintenant, en appartement, ça m'a beaucoup coûté. Parce que, bon, 18 ans au foyer, ça m'a beaucoup coûté d'y arriver là. Ça m'a pris beaucoup de temps faisant des stages, à faire mes preuves, à dire « Allez Sophie, tu vas y arriver, prends le temps !» Et puis c'est vrai que côté de ma famille, bon, il y a eu les peurs de mes parents, de ma sœur, « Quitte pas trop le foyer, attention, nanana, t'as pas le suivi du SAVS, ce serait bien que tu aies le SAVS. » Et puis, quand je suis partie, je ne l'ai pas eu de suite, le SAVS, parce qu'il y a, comme on vous explique, il y a beaucoup de gens qui attendent. Hein. Je ne suis pas seule, il y a d'autres personnes. Puis moi, je suis arrivée donc en avril 2023 dans mon logement avec mon copain. Et je me suis dit, mais purée, je suis en appartement. Et j'ai montré ma fierté. Et j'étais contente d'y arriver. Qu'on me disait, oui, tu vas revenir au foyer, tu ne vas pas y arriver. Manque de peau, j'y suis. Et cette fierté, c'est vrai, je suis contente. Et je suis contente parce que, quand je vous explique, j'ai mes angoisses. Parfois, j'ai mes colères, j'ai mes joies. Je suis contente, je suis triste, je suis angoissée, je suis joyeuse, comme tout le monde. Dans la vie, ce n'est pas toujours simple. Mais d'y arriver, on se dit « Waouh, on arrive, on travaille, il y a des échecs, mais on reprend, on attend, et on reprend, et on y arrive. » Donc voilà, c'est pour ça que je rejoins M. Jo, et puis tout ce qu'on a dit, parce que je souhaite à tout le monde d'y arriver. Je le souhaite à tout le monde, parce que tout le monde arrivera un jour. Peu importe le temps, peu importe les difficultés, peu importe, voilà. Mais je le souhaite au Papillon Blanc, ceux qui ont ce projet-là, parce que tout le monde ne l'a pas, il y en a voilà, qui ne veulent pas, je leur souhaite vivement ma place, comme j'ai fait, avec le temps qu'il faut. Ça, c'est pas grave, voilà.
Vous voyez, c'est un excellent résumé des valeurs associatives. Oui. Parce que quand je disais que c'était une association parentale, moi j'ai une pensée, on ne peut pas faire une émission de radio sans penser évidemment à nos administratrices, à nos administrateurs qui pourraient être le papa ou la maman de Sophie, mais qui sont aussi le papa et la maman de tout un tas d'autres de personnes qu'on accompagne. Et ce sont des bénévoles, c'est-à-dire qu'ils donnent de leur temps. Et dans le triptyque associatif, d'accompagner, de soutenir et de conseiller, c'est vrai que cette mission à distance, vous voyez, des fois il faut être beaucoup plus présent pour Sophie dans son parcours, parfois, mais Hélène en parlera beaucoup mieux que moi, et je vais lui passer la parole, et parfois il faut être à distance, et puis on a le droit de se tromper. On dit toujours, et dans la médecine en particulier, mais dans le médico-social surtout, il vaut mieux se tromper d'avoir essayé que de se tromper d'avoir eu peur, parce que sinon on ne fait jamais rien, et je crois qu'aujourd'hui, en plus l'actualité internationale nous le dit, il faut tenter les choses pour essayer d'aller mieux, tenter de se construire son parcours, tenter aussi d'être acteur de sa propre vie et puis de ses propres choix, d'avoir les moyens. Et souvent, on se révèle, n'est-ce pas Hélène? Je pense qu'il y a pas mal de témoignages comme ça dans le service qui sont toujours hyper intéressants.
Alors avant d'en parler, madame, on va faire une petite pause musicale. Pause musicale de votre choix. On va se tourner vers Christian.
Et donc le premier choix, c'est Zaz. On ira.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal, et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine, et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête tant qu'on a de héros. Que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Alors je reviens vers vous, parce que vous avez, avant de parler des ateliers de la citoyenneté, on va un petit peu parler du lien avec l'inclusion et la mission du SAVS, en parlant brièvement peut-être, mais il faut quand même l'évoquer.
Oui, tout à fait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'inclusion est vraiment au cœur de notre quotidien au SAVS. Donc, l'inclusion ne se décrète pas, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Ça demande du temps pour certaines personnes. Donc, beaucoup d'accompagnement, des défis, de la motivation. On impulse beaucoup pour que les personnes puissent trouver une place au sein de la ville. Alors, dans le cadre de nos missions, comme je le disais, en fait, on accompagne les personnes sur l'accès aux droits et sur la participation à la vie citoyenne. Et donc, c'est comme ça qu'a été créé l'atelier citoyenneté au sein du SAVS. Donc, cet atelier, aujourd'hui, il est animé par deux éducatrices, donc, qui sont Hélène et Céline, que l'on salue au passage. Donc, cet atelier, il permet de mieux comprendre les droits et devoirs des personnes que l'on accompagne, mais il permet aussi de comprendre le principe de fonctionnement d'une démocratie. Alors, à la fin de l'année, on avait fait une sensibilisation pour les personnes qu'on accompagne sur les élections municipales, c'est-à-dire comment ça va se passer, puis tout d'abord, c'est quoi un conseil municipal, c'est quoi une mairie. Et puis, on s'est dit que cette sensibilisation, elle n'était pas très accessible. Et puis, eh bien, on a eu l'idée de créer des petites vidéos pour mieux expliquer justement à tout un chacun comment on pouvait voter, comment on pouvait obtenir la carte d'électeur, par exemple. Mmh. Et donc, les personnes qui participent à l'atelier citoyenneté se sont vraiment prêtées au jeu. Eh bien, on sont devenus des acteurs le temps d'une journée pour réaliser ces petites vidéos.
Ah, très bien. Et puis après, vous avez un film.
On a trois films même.
Trois films, d'accord.
Oui, qui vont être très largement diffusés d'ailleurs, mais ça, oui. C'est la petite surprise que je leur ai annoncée ce matin. Ah. Oui, parce que effectivement, c'est toujours intéressant aussi de faire avec, pour et par les personnes qu'on accompagne. Faut pas faire à la place, encore une fois, on l'a dit, hein, faut changer le paradigme. Et c'est vrai que ces vidéos, elles sont, bah, on en a diffusé des extraits lors de notre soirée des vœux, par exemple. Il y avait 250 personnes. C'était remarquable. Évidemment, on est en période électorale. Et c'est bien de faire cette émission dans cette période-là. Et on remercie Liberté FM de nous donner la parole parce que, ben, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tous les candidats hein, lors de notre soirée des vœux. Ils étaient tous stupéfaits de voir la qualité des vidéos d'abord et puis la qualité de l'information. C'est-à-dire qu'elle pourrait être, cette vidéo diffusée, je veux dire, à tout un chacun. Ben oui, se rappeler de notre démarche citoyenne pour avoir voix au chapitre avec sa voix d'électeur et sa voix de citoyen. Et ça, c'est très très important parce que, véritablement, d'abord, ça donne à voir ce que peuvent penser les personnes en situation de handicap. L'accessibilité des services, hein, y a eu une vidéo qui a été tournée, mais ça vous nous l'expliquerez tout à l'heure, parce que c'est pas si simple. Est-ce que par exemple on a le droit d'être à deux dans un isoloir pour voter? Vous voyez, il y a plein d'assesseurs dans les bureaux de vote qui ne savent pas que oui, à partir du moment où la personne a besoin d'être aidée, on peut être deux dans un isoloir. Rappeler des règles toutes simples comme ça d'un point de vue législatif, et ça permet à chacun de s'exprimer, sinon on empêche la libre expression et surtout l'expression citoyenne qui est important. Je voulais aussi dire une chose sur les papillons blancs, vous l'avez compris, si on accompagne plus de 1000 personnes, c'est qu'on a énormément de pôles et de services. On n'en fera pas, je l'ai dit tout à l'heure, la liste complète ce matin, mais en gros il y a un secteur enfance et puis il y a un secteur adulte pour faire simple. Et puis, il y a aussi un établissement à Montpazier, dans cette jolie Bastide, qui accompagne les personnes handicapées vieillissantes, puisque entre les années 60 et puis les années 2000, et on s'en réjouit, les progrès médicaux, les progrès d'accompagnement ont fait que les personnes en situation de handicap vivent plus longtemps. Et donc, la question, c'est comment on accompagne, on verra à travers le parcours de Régis, comment on accompagne les personnes en retraite, qui ont travaillé en ESAT ou dans des entreprises de droit commun, comme tout un chacun. Comment on les accompagne dans une retraite qui a peut-être nécessité d'être pensée autrement, différemment, puisque, je disais, on a beaucoup pensé à travers l'école et à travers le travail, mais et la retraite. Cette vie après le travail, comment on la pense? C'est aujourd'hui un défi pour les politiques publiques. Hein. Et puis, on a aussi des personnes au papillon blanc qui sont plus lourdement handicapées, qui ne pourront pas venir ce matin à la radio témoigner, mais qui écouteront sans doute l'émission. Et moi, j'ai une pensée pour toutes ces personnes que nous accompagnons dans nos établissements plus lourds, plus médicalisés, mais qui ont aussi le droit de vote, par exemple, voyez, et qui ont aussi le droit de voter et qui ont aussi un avis à exprimer. Donc voilà, je pense à toutes les personnes qu'on accompagne, enfants ou adultes, qui leur dit différents chemins de vie font que nos professionnels qui sont toujours là auprès d'eux, bien évidemment dans le cadre du projet associatif pensé par les parents fondateurs et puis aujourd'hui les parents bénévoles, eh bien font qu'ils auront la possibilité chacun de s'exprimer lors des élections municipales.
Bien. Je trouve que votre raisonnement est bien parce que déjà le fait de leur donner le droit de vote, qu'ils aient une carte, qu'ils aient une identité sociale, ça les structure quand même. J'existe, je suis quelqu'un.
Tout à fait.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Et ça, c'était important.
Oui, fait, il faut juste rappeler ce qu'a pensé pour nous le législateur, c'est-à-dire nos élus, ils ont pensé. Alors peut-être qu'on est un peu en retard sur certains pays par rapport à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Mais peut-être aussi que parfois, avant d'inventer de nouvelles lois, il faut simplement s'intéresser à faire respecter celles qui existent.
Celles qui existent, tout
voilà.
À fait.
Et par exemple, je pense qu'une loi de bon sens, mais une règle de bon sens qui est de rappeler à chaque citoyen dans sa ville comment il peut voter, qui a le droit de vote. C'est pas le tout d'aller dans les EHPAD uniquement pour les personnes âgées. Il faut aussi penser à toutes les personnes qui sont françaises, qui n'accèdent peut-être pas très bien à la lecture, qui n'accèdent peut-être pas très bien à l'écriture, qui n'accèdent peut-être pas très bien à l'information telle que nous on la pense, et comment on leur donne accès à cette information. Et les vidéos qui ont été faites, elles ont ce mérite-là. Elles sont à la fois très simples. On s'embarrasse pas de codes de communication avec des agences de marketing. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment vous faites si vous avez envie de voter. Nous, on va vous expliquer. Et en plus de vous l'expliquer, on va vous montrer, parce que je crois qu'il y a eu des mairies qui vous ont ouvert les portes pour pouvoir être filmés dans la démarche.
Dans la démarche.
Ça, c'est bien.
Ça, c'est très, très, très bien. Et on les remercie parce que, véritablement, c'est un autre regard, en fait. Il faut changer son regard. Changer. Et vous avez raison sur l'identité sociale. Mais je rappelle qu'une personne en situation de handicap n'est ni plus ni moins qu'un citoyen comme tout le monde, qui a besoin juste d'être, d'être accompagné.
Mais justement, le fait d'avoir ce pouvoir, ça peut l'aider à chercher à rentrer dans autre chose, se mettre en place ailleurs. Pour un travail, pour autre chose. C'est déjà lui donner une identité, une force.
Je rappelle simplement un chiffre, vous avez raison, aujourd'hui, 12 à 15 millions de Français sont en situation de handicap à différents degrés sur différents champs de handicap. 12 à 15 millions. Et j'invite toutes les personnes en situation de handicap, en âge de voter ou en âge de s'interroger ou de réfléchir, de regarder les programmes des candidats municipaux, des candidats aux municipales, et de voir quelle est la place qui a été laissée au handicap, à l'accessibilité, etc. Par exemple, au Papillon Blanc, je déflore pas un sujet, il faudrait que toutes les médiathèques, je crois qu'on est à côté d'une médiathèque bibliothèque, aient un coin avec des livres en falque, faciles à lire et comprendre. Voilà. Parce que le facile à lire et comprendre, bah, il s'adresse aux enfants, il s'adresse aux personnes qui peut-être n'écrivent pas ou ne lisent pas très bien, mais ça peut s'adresser aussi à des personnes en situation de handicap. Et je rappelle qu'on a une association cousine et amie, l'APEI de Périgueux, l'association des parents et des enfants inadaptés à Périgueux, qui a une société d'édition qui travaille au facile à lire et comprendre. Par exemple, il me semble qu'une loi de bon sens serait que tous les programmes des candidats soient rédigés en falque. D'abord, ça ne dénature pas l'information, le falque, jamais. Ça garde et ça conserve l'information principale. Par contre, ça la simplifie. Voilà. Et quand on voit toutes les circonvolutions pour dire qu'on va refaire une route et qu'il en faut 10 lignes, des fois, simplement écrire « on va refaire une route », d'abord, c'est plus direct, c'est engageant, et puis ensuite, on juge sur pièce. Moi, j'invite simplement le législateur à réfléchir à cette loi de bon sens. Tous les programmes en falque, ben je ne suis pas certain que ça changerait grand-chose.
Bien.
Est-ce qu'il y a, moi j'ai une question, il y a quelques années en arrière, est-ce que les personnes en situation de handicap étaient moins impliquées au niveau citoyenneté, justement, en termes d'électeurs ?
Oh, je vais faire un schéma, et pardon si je suis un peu caricatural, je parle avec bien évidemment Hélène à mes côtés, mais... En gros, dans les années 60, c'était des donations, des grandes maisons, des châteaux, etc. C'était en dehors de la ville.
D'accord.
Et puis, vous avez tous en tête ou alors avant les années 1905, vous aviez les bonnes sœurs, c'était les œuvres. Avec la loi de la séparation de l'Église et de l'État, il a fallu que l'État prenne ses responsabilités. Mais oui, effectivement, avant, c'était le handicap un petit peu hors de la vue.
Okay.
Et je crois qu'avec la première loi sur le handicap, c'était en 75. La deuxième loi, c'était en 2005, accès, égalité à la citoyenneté, égalité des chances. C'est là qu'on a créé les maisons départementales pour les MDPH, pour les personnes en situation de handicap. C'est là aussi où on a considéré que tout handicap doit se compenser. Alors matériellement, s'il faut un ordinateur à l'école pour mieux apprendre, s'il faut aménager un poste de travail dans une entreprise. Mais ça peut être aussi humain, c'est-à-dire quand on a besoin d'une auxiliaire de vie scolaire, maintenant qu'on a les AESH, ou si on a besoin aussi d'être accompagné par des éducateurs, ben c'est possible. Et puis après, il y a aussi les accompagnements plus lourds en structure, en foyer ou en service ambulatoire. Et effectivement, cette loi de 2005, elle redispose la personne en situation de handicap au cœur de la cité, au cœur de la citoyenneté. On n'est pas un sous-citoyen, pas du tout, bien au contraire. Et je suis content que nous ayons des témoignages ce matin des personnes qu'on accompagne, qui à mon avis donneront à réfléchir à beaucoup de personnes qui pouvaient avoir des représentations peut-être.
Je vais rajouter aussi une petite donnée. Il y a quelques années, les personnes qui avaient une mesure de protection, une mesure de curatelle ou une mesure de tutelle, ne pouvaient pas voter pour certaines. Donc c'est aussi ça qui a évolué aujourd'hui. Okay. C'est pas parce qu'on a une mesure de protection qu'on ne peut plus voter.
Ah oui, très bien.
Autre chose que je trouve aussi très bien, c'est les AESH. Parce que quand un enfant est en difficulté, ça lui permet d'être assimilé à la classe et pas en dehors de la classe, parce qu'il ne suit pas. Alors, ça lui donne l'égalité éducative. Et ça, c'est super.
Exactement. Alors, au Papillon Blanc, on est très précurseur sur le sujet parce que sur Bergerac, on a des unités d'enseignement externalisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des écoles, je vous disais au départ, à Rosette, qui est le site emblématique des Papillons Blancs, le château de Rosette, le site de Rosette qui est le pôle enfance. C'était une classe, mais c'est, encore une fois, on avait des enseignants qui faisaient des classes au sein de la structure. Et aujourd'hui, on vise à l'accompagnement en milieu ordinaire à l'école, mais comme on accompagne les personnes dans leur vie de tous les jours, en tant qu'adulte. Et il se trouve qu'au Papillon Blanc, on a des classes externalisées dans les collèges, dans les écoles élémentaires, mais on a aussi une école, une classe qui s'appelle une UEMA, qui est une unité d'enseignement maternel pour enfants autistes, avec 7 places et 5 professionnels, 6 professionnels, ça dépend le nombre de TP ou le nombre de professionnels, qui travaillent avec ces jeunes tous les jours au sein d'une école qui s'appelle Pauline Cargomar à Bergerac. Et là, on voit bien ces enfants en situation de handicap qui sont autistes, diagnostiqués. Ils vont dans des décloisonnements dans les autres classes. Et pour le coup, pour bien connaître cette école, les enfants qui sont au quotidien avec les enfants autistes ne voient pas la différence. Pour eux, il n'y a pas de différence. Il y a de la patience, accompagner la différence, jouer avec, s'adapter, par exemple. Il faut faire des pauses de calme pendant les récréations. L'année dernière, ils ont fait une très belle vidéo pour la journée mondiale de l'autisme où tous les enfants, pendant 4 minutes, 80 enfants, je crois, dans cette école, n'ont fait aucun bruit pendant 3 minutes en signe de respect pour les enfants autistes, vous savez, pour qui, qui ont souvent des casques, pour qui ils font un peu d'hypo, à un côté hypoacoustique, qui n'est pas trop de bruit pour les préserver. Et donc, c'est vrai que enseigner ça aux enfants dès le plus jeune âge, vous en faites forcément des citoyens qui seront résilients, regardants et très, 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 très en capacité de comprendre les différences.
Ce qui m'a beaucoup interpellée dans la situation de ces aidants, justement, c'est que l'enfant, il est plus spectateur, il est participant. Il se sent plus en marge. Et ça, ça lui donne envie de continuer d'apprendre. Voilà.
Oui, la loi de 2002 qui donc précède de 3 ans la loi de 2005, elle redit ceci d'essentiel dans le médico-social. Elle dit l'usager, la personne accompagnée, est au centre des dispositifs, est au centre des structures d'accompagnement, et c'est bien elle qui est actrice de son propre chemin de vie. Et donc c'est pour ça que des fois on a tendance à être un peu protectionniste quand on est parent d'un enfant en situation de handicap. On a tendance, Sophie en parlait, à vouloir protéger. Ça part toujours d'une très bonne intention avec une société qui a pu être dure parfois et difficile. Sophie, elle a 45 ans, donc elle est née dans les années 80. Bon, aujourd'hui les enfants qui naissent dans les années 81 dans les années les enfants qui sont nés dans les années 2010-2020, j'espère auront une société avec des personnes qui composent cette société qui auront un regard différent. En tout cas, ça s'éduque, le regard qu'on porte sur le handicap. Ça s'éduque, ça ne peut pas être que légiféré, on ne peut pas faire des lois pour obliger les gens à regarder les personnes sur le handicap d'une certaine manière. Et donc le changement de regard, c'est une culture, ça s'éduque, ça se cultive et on récolte ce que l'on sème.
Très bien. Puisque vous allez récolter, nous on va récolter un petit peu de musique en passant avec vous, une musique de votre choix.
Eh bien, le second morceau choisi, c'est Jean-Jacques Goldman, Ensemble.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi, je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons. Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi, je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi, souviens-toi, ensemble.
J'ai besoin de nos chemins qui se croisent. Quand le temps nous rassemble ensemble, tout est plus joli. Reviens-moi de tes voyages si loin. Reviens-moi tout ça. Ensemble, nous l'avons franchi.
Souviens-toi.
Nous l'avons franchi.
Souviens-toi.
Nous l'avons franchi.
Alors je me tourne vers mon voisin de table et je vais lui demander. Depuis qu'il est resté dans votre établissement, maintenant qu'il est à la retraite, qu'est-ce que ça lui a amené? Et je lui souhaite une très très bonne retraite. Est-ce que vous, en tant que participant dans cet établissement, vous avez eu envie de faire passer des messages que vous avez reçus? Parce que c'est un échange en définitive. Vous oui. avez eu la chance de pouvoir évoluer là, d'expliquer à ceux qui arrivent, et aux plus jeunes, même aux plus jeunes, oui. Votre, ce que vous en avez tiré et ce que vous avez reçu.
Alors, pour tout expliquer, déjà quand je suis rentré en 92 en ISAT, ça a été le blocage complet. Parce que je me suis retrouvé au milieu de personnes handicapées dont je n'avais pas le...
L'idée.
Donc je n'avais pas la portée. Et tout en travaillant avec ces gens-là, je me suis ouvert vers eux. J'ai écouté, je les ai entendus parler. Mmh. Et ça a commencé à me débloquer. Parce que quand je suis rentré, déjà, je suis né avec un... pas un handicap, mais une malformation au niveau des lèvres. Mmh. J'avais un double veine de lièvre au départ, et ce qui m'a replié sur moi-même, complètement.
Mmh. Okay.
Je parlais à personne. Mmh. Même à mes parents, je ne parlais pas. Mmh. Et il a fallu que je commence à aller à l'école pour un peu prendre la voie. Mais j'avais toujours sur moi le regard des gens.
Oui.
Ça m'angoisse. Et en rentrant justement dans
la structure,
cette structure, j'ai pu, en voyant les autres handicapés faire ce qu'ils avaient à faire ou à parler, j'ai dit, mais, si j'y arrive, moi je peux y arriver. En parlant avec eux, avec les moniteurs, tout ça. J'ai appris à me lâcher prise.
Ah, ça c'est bien.
Et là, j'ai pu commencer à m'exprimer comme je voulais.
Après, quand vous avez été assimilé à tout le monde, puisque oui. c'est un, un groupe de personnes.
Oui.
Là-dedans, vous est venu des envies, parce que certainement dans les ateliers, vous avez trouvé une place d'un atelier à un autre, et vous avez eu le choix de pouvoir après vous conforter et à choisir quelque chose qui vous convienne.
Oui.
Est-ce que c'est le chemin que vous avez pris dans la structure?
Oui, tout à fait.
Bon. Alors, vous allez nous expliquer. Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, au sein de Damaretz, j'ai pu déjà passer le permis CACES, permis cariste, un jeune d'élévateur. Ça m'a apporté beaucoup. Une semaine cariste et une autre semaine dans la série en tant que manœuvre.
D'accord.
Pour couper le... Parce que je n'étais pas tout seul sur l'élévateur.
Et ça vous a apporté un emploi?
Oui, oui. Une fierté, ça.
Une fierté.
Une fierté.
Mais une place. Une place dans la société,
place,
surtout. Voilà. Et donc, vous êtes resté salarié longtemps? Parce que si ça vous plaisait, vous y êtes resté.
De 82 à... En premier, de 82 à 84. Alors, c'était comme ça. Et après, j'en suis revenu en... C'est pas une connerie. En 93.
Alors... Entre-temps, Régis a travaillé dans une entreprise de droit commun.
Oui, s'appelle...
Unidor.
Ouais,
donc ça, vous voyez, quand on a des travailleurs d'ESAT qui accèdent au droit commun, ben c'est une vraie réussite, ça, c'est l'objectif des professionnels. Et j'imagine pour Régis, c'est quelque chose de très valorisant aussi.
Ah, Unidor, oui, c'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier, parce que là, ça, je me suis retrouvé dans un entrepôt où il y avait déjà une personne handicapée qui était, c'est M. Genodeau, je crois. Mais lui, quand il avait des feuilles de commande avec le nom des produits, mais il ne savait pas lire. Donc on a pensé à moi à Gamarès, et c'est comme ça que j'ai intégré l'Unidor.
Et est-ce que justement, puisque vous avez fait ce parcours, maintenant, lorsque vous êtes encore dans la structure, je suppose, est-ce que quand il y a des nouveaux ou des personnes qui viennent vers vous, est-ce que vous avez la fierté de pouvoir leur dire, ben moi j'y suis passé, tiens, je peux te donner telle référence, tel conseil, des conseils simplement amicaux, mais qui peuvent prendre une place importante dans la personne qui les reçoit?
Ben, tout à fait, oui. Et ben, pas plus tard qu'hier, que samedi dernier, on a eu une réunion avec des professionnels sur la réflexologie. Et après cette réunion, on a eu des personnes qui font partie d'un groupe et qui allaient être évaluées par des évaluateurs comme on a eu au service SAVS. Et ils voulaient savoir comment ça se passait. Et on leur a expliqué comment
eh bien, c'est bien.
Les questions qu'ils allaient poser. Et...
D'accord.
Voilà. Régis, je vais juste me permettre de rajouter une petite étape dans ta vie, Régis, puisqu'il y a eu le mariage.
Ah oui, ben oui.
Une grosse étape de sa vie, le mariage, qui a été aussi accompagné par le SAVS. Et puis Régis, c'est une personne qui est élue au sein du SAVS, qui représente l'ensemble des personnes que l'on accompagne et qui est là justement pour, du coup, organiser des activités pour les personnes, mais aussi nous accompagner, nous, professionnels, pour améliorer nos outils d'accompagnement, par exemple.
Très bien. Et ce qui est une bonne chose, parce qu'en même temps, ça ne le met pas à la retraite. Parce que quand on a dit retraite, on dit « Ah, c'est fini, quoi ».
Retraite, ce n'est pas retrait, hein.
Oui,
voilà, c'est ça la différence.
Pour ça, c'est pour ça le fait qu'il ait encore un statut.
Et
c'est encore bien.
Justement, depuis cette retraite, on peut dire que Régis, il s'est vraiment ouvert. Aujourd'hui, il fait plein de choses qu'il n'osait pas faire il y a encore quelques années.
Oui.
Et, aujourd'hui, Régis, ce n'est pas simplement un bénéficiaire d'un accompagnement. C'est une personne qui s'exprime, qui participe et qui peut donner des informations. Oui. Au SAVS, on travaille aussi beaucoup la pair aidance. Et aujourd'hui, Régis, oui, il accompagne des nouveaux arrivants, par exemple, des nouvelles personnes qui sont accompagnées au SAVS. Il peut être parrain un petit peu de ces personnes-là pour faciliter l'intégration au SAVS.
Bien. Alors, j'avais une question tout à l'heure. Je vous laisse. Je vais revenir vers vous. J'avais une question à vous poser parce que vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Quand vous avez des familles qui ont des enfants, qui ont passé du temps dans votre établissement, est-ce que dans les bénévoles qui rentrent, puisque vous êtes entouré de bénévoles, est-ce qu'il y a encore les parents qui ont reçu qui ont repris leurs enfants ou pas, ou qui ont aidé au cheminement, viennent vous trouver en tant que bénévoles ? Parce qu'eux, ils ont un vécu à faire passer aux autres.
Alors, dans les associations parentales, c'est justement ce qui peut-être nous différencie. C'est-à-dire qu'il y a cette triple expertise. Et au Papillon Blanc, je vous en dirai deux mots, on est même passé à la quadruple expertise. Alors, les triples expertises, qu'est-ce que c'est ? C'est les 3 P. Donc, ce sont les parents, parce qu'ils ont l'expertise d'être parents. Oui. Qui, mieux que des parents, peuvent vous parler du handicap de leur enfant ? Première chose. Deux, il y a l'expertise des personnes elles-mêmes, les personnes accompagnées. C'est le deuxième P. Parents, deuxième P. Personnes accompagnées. Bah oui, elles ont aussi à vous parler de leur handicap et à vous expliquer comme on l'entend très très bien ce matin. Moi, je suis très touché des témoignages que j'entends. Voilà, parce que je trouve que c'est plein d'humanité et que je trouve que notre société a fait sens dans ces témoignages. Et en vrai, il y a le troisième P, c'est les professionnels qui, eux, ont une expertise technique pour aider, accompagner, comme l'a très bien expliqué Sophie tout à l'heure, ou comme l'a expliqué Régis à l'instant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se dire, mais Régis, sa place, c'est pas d'être dans un ESAT, là, c'est d'être en milieu ordinaire et d'aller, avec un contrat, travailler en milieu ordinaire, comme tout le monde, et tant mieux. Et c'est ça, en fait, l'expertise. Et nous, on a rajouté, lors de la réécriture du projet associatif, un quatrième P, c'est celui des partenaires, c'est-à-dire quel regard la société civile porte sur notre association et notre action. Parce que des fois, c'est un peu de l'entre-soi, les 3P, quand ça fait 20 ans, 30 ans que les professionnels voient les parents et accompagnent la personne en situation de handicap, si on n'a pas un regard qui croise, ça peut parfois nous interroger. Je vous donne un exemple. Tous les matins, au Papillon Blanc, vous avez 300 travailleurs en situation de handicap, vous en avez à peu près la moitié qui prennent des bus, donc pour le secteur adulte. Donc ça en fait des bus hein, sur le territoire de la Dordogne qui circulent pour ramener les personnes au travail parce qu'elles n'ont pas le permis, parce qu'elles habitent loin, parce qu'elles sont enclavées ou d'autres raisons. Eh bien, quand le patron de la société de bus est venu travailler au projet associatif, lui, sa première chose, ça a été de dire « Mais attendez, moi j'ai des chauffeurs de bus qui passent 1h30 ou 2h le matin et le soir avec des personnes en situation de handicap, elles ne sont pas formées. Est-ce que vous pourriez former. Ah ben oui, tiens, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on faisait il y a 10-15 ans et qu'on fait plus, et voilà, ça s'est perdu, donc on réactive. Et pour répondre à votre question, madame, sur la question des parents qui ont et qui apprennent le handicap de leur enfant ou qui ont leur enfant suivi ou accompagné au Papillon Blanc, eh bien j'ai envie de leur dire, si elles nous entendent, ces personnes, ces parents, j'ai envie de leur dire, venez, parce que d'abord vous rencontrerez des pairs, P-A-I-R-S, qui pourront vous parler aussi de leur expérience. C'est quand on partage nos expériences seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.
Et on s'enrichit.
Et c'est vrai que pas assez. Est-ce qu'il y a suffisamment de bénévoles ? Pas assez qui s'engagent. Après, c'est vraie responsabilité, les Papillons Blancs, je vous l'ai dit, 580 salariés, plus de 40 millions d'euros de budget, faut avoir envie de s'engager, mais faut pas avoir peur. D'abord, on forme, on accompagne, puis ensuite, il y a des techniciens, j'ai des directeurs, je suis directeur général, on a des chefs de service très compétents, comme Hélène, puis on a plein de professionnels dont la qualité d'accompagnement est reconnue, parce que j'aime à le dire, au Papillon Blanc, vous savez, on est évalué par une instance externe qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, et on fait partie des meilleures associations de France dans la qualité d'accompagnement. La note moyenne de nos établissements, c'est 3,79 sur 4. Et il y a 136 ou 140 critères évalués. D'accord. On a des évaluateurs qui viennent, Régis en parlait, ils interrogent carrément les personnes accompagnées. Ça, c'est aussi des choses très nouvelles hein, par rapport aux évaluations externes qu'on connaissait il y a 10, 15, 20 ans. On donne la parole aux personnes accompagnées, aux familles, aux professionnels, aux partenaires, et puis on interroge toute l'ingénierie d'accompagnement mis au service des personnes qui sont au Papillon Blanc de Bergerac. Bon, je dois dire que je suis plutôt très fier de pouvoir donner ces chiffres-là, mais je n'oublie pas qu'à la fois c'est grâce aux parents fondateurs, grâce à l'engagement des professionnels, tous les jours, tous les matins, les week-ends. Nous, nos foyers sont ouverts 365 jours par an. Hein. Les personnes vivent dans leur foyer. Et puis, c'est aussi une ligne de conduite éthique au service des personnes les plus vulnérables. On ne reconnaît la grandeur d'une société qu'à sa capacité d'accompagner les plus vulnérables.
Bien, le temps passe, nous fait signe notre technicien. Est-ce que, d'abord, je voudrais remercier, avant qu'on se quitte, vous deux collaborateurs de la matinée, parce qu'ils ont fait un témoignage plein d'humilité. Et ça, c'est important. Ils ont parlé avec leur cœur, ils ont parlé de leur vécu, tout simplement. Alors j'espère que vous allez nous faire une conclusion. Je vous invite à nous rejoindre quelquefois quand vous avez quelque chose d'important dans votre structure ou même comme ça pour venir nous raconter un petit peu avec d'autres intervenants de venir nous recontacter. Surtout, ne vous gênez pas, la porte est ouverte.
C'est très très gentil, merci beaucoup. Et puis on va rappeler simplement qu'à travers l'atelier citoyenneté, ce qu'ont voulu faire les personnes accompagnées par le SAVS, c'est de rappeler à tout le monde qu'il faut aller voter. Il y avait, qu'on a le droit d'exercer son droit de vote. Et, voilà.
Un devoir citoyen.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup.
Merci.
Alors Christian, est-ce qu'il nous reste un tout petit peu?
Oui.
Alors juste les choses pratiques, s'il vous plaît. Comment on peut vous joindre? Tout ce qui est pour que les gens puissent vous contacter. Toutes les pages, tout ce que vous avez.
On est sur Facebook, on est sur LinkedIn, on a un site internet, Papillon Blanc Bergerac, que vous trouverez. Hein, vous tapez sur internet, vous pouvez nous trouver. Il y a un siège social. Il y a aussi une action familiale qui peut rencontrer des parents aux besoins qui s'interrogent. On a des professionnels également. N'hésitez pas à appeler le siège social. Hein, c'est le 05 53 74 49 49. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, pour vous écouter, et on saura vous orienter. Les Papillons Blancs aussi, je rappelle, c'est le porteur départemental pour toute la Dordogne d'un service qui s'appelle RMTP, qui s'appelle Raconte-moi ton projet. Et Raconte-moi ton projet, c'est vous faites face à l'annonce d'un handicap au sein de votre famille, vous appelez les Papillons Blancs et raconte-moi ton projet et je vais t'accompagner. Voilà, les professionnels dans ce service s'appellent des accompagnants au projet de vie, des AAPV. Alors vous voyez, c'est plus joli, les accompagnants au projet de vie. C'est-à-dire que venez nous parler de votre histoire, de votre projet, puis nous on va vous aider à le construire dans une société où parfois en France on ne peut pas dire que l'administratif soit le plus simple. Hein. On appelle où, on fait quoi, comment on construit le projet, le dossier, et là on a des professionnels qui sont là.
Merci beaucoup, merci à vous quatre.
Merci
à Christian de nous avoir accompagnés à la technique.
On merci
finit en
vous.
Musique.
Alors on finit en musique, il nous reste, alors je vais vous laisser le choix entre deux morceaux, il y a Grand Corps Malade, Sixième Sens, ou alors La Marseillaise d'Ibrahim Malouf.
Encore malade.
Allez, c'est parti pour Grand Corps Malade.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y'a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés.